Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Le journal Le Monde a livré cette semaine des détails sur les projets d'attentats préparés contre des musulmans par un groupuscule d'extrême droite démantelé cet été en 2013. Pourtant, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait engagé la dissolution de ce type de groupuscule et ce au lendemain de l'assassinat de Clément Méric. Ce militant antifasciste avait été tué par des skinheads d'extrême droite. Leur procès a débuté mardi. La dissolution de l'ultra-droite aurait-elle échoué? Bonjour Frédéric Charpier. Vous êtes journaliste, vous avez notamment publié Les Plastiqueurs, une histoire secrète de l'extrême droite violente. Alors, la dissolution, est-ce que ça sert à quelque chose?
Bon, ça sert toujours à quelque chose, mais enfin, il faut limiter un petit peu les effets directs. Disons que ça permet surtout à la justice et aux services de renseignement et de police de poursuivre éventuellement pour reconstitution dissoute les gens qui ont été dissous. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes interdit, vous n'avez pas le droit de redire et de refaire ce que vous avez fait avant sous le risque d'être poursuivi par la justice. Donc ça permet avant tout de réprimer. Sur le fond, ça change rien. Les groupes se reconstituent assez vite. On ne dissout pas non plus les idées, entre guillemets, en l'occurrence. Et puis, on ne dissout pas les gens non plus. Donc, les gens continuent de se voir, de se fréquenter.
Les gens, comme vous dites, aujourd'hui, on les entend au procès, donc suite à l'assassinat de Clément Méric. On entend ces assassins. Qui sont-ils? Qu'est-ce que ce procès peut nous apprendre justement sur l'ultra-droite violente, Frédéric Charpier?
Ben déjà, l'incrimination n'est pas celle d'un assassinat. Il faut quand même, sur cette question-là, revenir sur ce qui a été retenu finalement par la justice. Moi, je m'en tiens à ça. Voilà, donc, qui sont ces gens? Bon, ben, c'est...
Vous dites que ça n'est pas un assassinat parce que...
Parce que la justice ne poursuit pas pour assassinat.
Bien sûr, mais parce que c'est une bagarre.
Parce que c'est un engrenage, terrible, qui a abouti, c'est ça qui est tragique dans cette histoire, à la mort d'un jeune garçon. Mais c'est d'avant tout un engrenage terrible et tragique.
Mais est-ce que ça nous renseigne sur l'ultra-droite, ce fait terrible, ou est-ce que l'ultra-droite et sa véritable dangerosité, elle se situe aussi ailleurs, par exemple, dans ce projet d'attentat qui aurait été déjoué, comme nous l'a appris le journal Le Monde, Frédéric Charpier?
Non, enfin, disons que ça nous apprend, sur l'incident lui-même, ça nous apprend surtout que les uns et les autres fréquentent les mêmes vendeurs de vêtements. C'est ça qui est peut-être le plus navrant dans cette histoire. C'est qu'au fond, tout ça est arrivé parce qu'il y avait une vente privée qui a dégénéré, si j'ose dire, par la rencontre et le télescopage de deux groupes qui étaient venus pour cette vente privée. Ce que ça nous dit, au fond, rien de plus que ce qu'on sait déjà historiquement sur ces groupes-là, qui existent depuis très longtemps, qui sont des groupes qui ont des pulsions assez violentes, qui agissaient peut-être même autrefois encore avec une fréquence plus élevée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une recrudescence possible, en tout cas une inquiétude à avoir, parce que tout ça se couple avec le phénomène de la politique des migrants en Europe, qui stimule littéralement une partie de l'extrême droite. C'est ce qui ressort justement de l'enquête que j'ai menée. On sent bien aujourd'hui qu'il y a un échauffement général dans les différents milieux d'extrême droite européens, que tout ça se coordonne, que les gens ont beaucoup de relations, qu'il y a un réseautage au niveau européen de tous ces groupes, et que finalement, les services de renseignement sont préoccupés par ce qu'ils découvrent déjà, mais surtout par ce qui pourrait éventuellement arriver ultérieurement. C'est-à-dire qu'il y a des ingrédients qui sont là, il y a une espèce d'alchimie qui est en train de se faire. Est-ce qu'on va déborder et passer à l'acte? Ça, c'est la question qui se pose.
Dans les termes que vous employez, Frédéric Charpier, extrême droite, ultra droite, s'agit-il en quelque sorte d'un continuum? Est-ce qu'il y a l'extrême droite de l'extrême droite qui peut verser dans la violence? Est-ce qu'on a affaire à des groupes séparés? Est-ce qu'il y a une porosité entre ces différents groupes? Qu'en pensez-vous, vous qui êtes journaliste et qui avez enquêté sur l'extrême droite violente?
Alors oui, justement, moi j'ai fait un livre, une enquête assez longue et assez documentée, puisque j'ai beaucoup utilisé les documents de service et de justice. Au fond, je me suis intéressé juste à cette partie de l'extrême droite violente, qui a une histoire assez longue en France, qui, on va dire, que je fais démarrer sous l'occupation et qui se termine évidemment, effectivement, avec quelque part en un ultime soubresaut avec l'affaire Méric. Donc, cette extrême droite violente, elle diffère un peu d'une autre extrême droite, qui paraît plus assagie, plus respectable, parce qu'elle est par essence plus activiste. C'est plutôt le terme qu'il faudrait retenir. Donc pressés de passer à l'action. C'est pour ça qu'il y a ceux qui préfèrent régler ça dans les urnes, et puis ceux qui préfèrent éventuellement régler ça par les coups de poing, les attentats, les assassinats, etc.
Mais est-ce que les uns et les autres se parlent?
Oui. Ils se parlent. Disons qu'il y a une interpénétration classique. Généralement, il y a un phénomène qui est assez courant à l'extrême droite, c'est qu'on passe facilement d'un groupe à l'autre. On s'attarde pas forcément, on cherche un peu son chemin, si j'ose dire, sa voie, le groupe qui va correspondre le mieux. Il y a des gens qui sont rentrés, par exemple, au Front National dans les années 80 et qui ont été déçus par, on va dire, la mollesse, je mets ça entre guillemets, du FN, et qui ont préféré, évidemment, se tourner vers des groupes plus durs, plus violents.
A-t-on véritablement affaire à un renouveau de ces milieux? Parce que pour le procès Méric, par exemple, on cite Serge Ayoub, qui était déjà en activité quand j'étais jeune. Est-ce qu'on a vraiment affaire à une population nouvelle, ou s'agit-il de personnes qui, aujourd'hui, ont leur âge, le mien, enfin?
Non, mais il y a un renouvellement continuel. C'est ce que je raconte dans mon livre, justement. C'est qu'on part de l'occupation, on passe par l'OAS, on passe par les années 70, le mercenariat, les années 80, les skins, les néo-nazis. Au fond, grosso modo, c'est une boucle sans fin. Et effectivement, il y a des générations qui se succèdent. Et Serge Ayoub est quand même une personnalité de ce milieu-là.
Une personnalité, en tout cas, qui dure du point de vue de sa carrière. Est-ce que le pire est à venir, selon vous? Est-ce que l'on va craindre en France à juste titre, par exemple, le phénomène que l'on observe en Allemagne à Chemnitz, où on voit que l'extrême droite peut provoquer des manifestations violentes?
Oui, je pense qu'il y a, le risque est réel, et il va beaucoup dépendre de la manière dont on va régler, solutionner la question de la politique des migrants en Europe.
Merci Frédéric Charpier, votre livre « Les plastiqueurs, une histoire secrète de l'extrême droite violente ». Votre livre est publié aux éditions La Découverte.